Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite ce matin à méditer un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ce texte, et particulièrement les paroles de Jésus, contiennent uniquement 40 mots. Vous n'avez pas compté, hein, mais moi je ne les ai pas comptés non plus, j'ai lu. 40 petits mots, et pourtant, des milliers d'auteurs par l'histoire ont essayé de dire quelque chose avec autant de puissance, c'est pour ça que j'ai mis une photo de bibliothèque, et n'y sont jamais parvenus. Ces 40 mots, cet ordre missionnaire de Jésus, 40 mots que beaucoup ont cherché à imiter, que beaucoup ont cherché à avoir autant d'influence que ces 40 mots-là, et personne n'a réussi. Si on peut prendre des bibliothèques, et pourtant c'est un spécialiste des livres, en tout cas un amoureux des livres qui vous parle, c'est plutôt les conséquences de ces 40 mots. Des milliers de livres, des milliers de lignes ont été écrites là-dessus. Tellement ces 40 mots, cet ordre missionnaire de Jésus, ont eu un impact sur l'histoire des hommes, sur notre histoire. J'étais bien obligé, à un moment donné, si on prend ce thème de la mission pour ce premier trimestre ici à la FRAT, de m'arrêter sur ce texte de la fin de Matthieu. Tellement il est important. Mais on est un peu tremblant quand on s'arrête devant ces textes si importants, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter par rapport à tout ce qui a été déjà dit, par rapport à ces centaines de livres qui ont été déjà écrits. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que tout à nouveau, chaque fois que je le relis, il conserve ce même impact parce qu'il y a une force qui se dégage extraordinaire. Puis j'en veux pour preuve que ces 40 mots ont influencé et ont envoyé des centaines de milliers, voire des millions de missionnaires sur les routes et au-delà. Cette image-là, je l'ai tirée du livre de Jacques Blandonnier, je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui a fait toute une histoire de la mission protestante au XIXe siècle. Puis je me souviens, j'avais, je sais plus, 18 ou 20 ans, quand il était venu dans notre famille d'église pour raconter quelques-unes de ces histoires de missionnaires protestants, notamment des Écossais, qui allaient en Afrique, notamment l'Afrique noire, l'Afrique subtropicale, et puis qui souvent y laissaient leur peau parce qu'ils avaient entendu et pris au sérieux, encore au XIXe siècle, donc 1900 ans après que Jésus ait prononcé ses paroles, cet ordre missionnaire. Ça a changé des milliers de vies. Alors ça continue, et c'est ça qui est extraordinaire quand on pense à l'AFRE, quand on pense au SME, et quand on pense aussi à notre rôle ici, au cœur de la ville. Ça continue. Et puis c'est assez intéressant parce que vendredi soir, on a pu partager un repas avec toutes les personnes qui nous ont rejointes en 2016 ici à la FRAT. Et puis il y a un élément parmi d'autres qui m'a frappé, c'est de voir à quel point ce « toutes les nations » est vraiment au cœur de nos villes. On était à peu près 20-25, et puis on était 7 nationalités différentes autour des tables. Il y avait l'Érythrée, Haïti, Roumanie, je ne sais plus, Italie, Espagne. Plein de nationalités différentes, réunies ici, en plein cœur de la ville. Donc il y a presque un peu un changement de paradigme dans la mission, puis ça, il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, que c'est plus forcément au loin que ça va se passer. Que se passe-t-il? Ok, c'est bon, on va pas perdre le temps. Il y a bientôt des rénovations qui sont prévues, donc... ce sera peut-être pas trop... C'est un grand paradigme qui change de la mission, c'est qu'effectivement c'est toujours possible d'aller au loin, mais c'est aussi impressionnant de constater à quel point ces nations se réunissent au cœur de nos villes ici en Occident. Alors on va un peu reprendre tout à nouveau ce texte, tout en sachant bien que la force, elle réside vraiment dans ce texte-là. Ce que je vais vous apporter, c'est une manière de l'asseoir encore un peu plus dans nos cœurs, aussi un peu déterminer pourquoi notre vie d'église est là, ses caractéristiques qu'elle a actuellement, et puis en quoi ce texte influence comment nous pensons la mission, puis comment nous voulons essayer de la vivre au mieux. La première observation, et qui est très importante, surtout que nous approchons de cette période de Pâques, c'est le moment de cette rencontre de Jésus avec ses disciples. Jésus rencontre ses disciples après la résurrection, après qu'il soit mort et ressuscité. C'est la première fois, et l'unique dans Matthieu, qu'il se révèle de nouveau à eux et qu'il apparaît de nouveau à eux. C'est la seule parole que Jésus adresse à ses disciples après sa résurrection et avant qu'il remonte au ciel. Donc là, il y a quelque chose d'essentiel, il y a un message capital que Jésus tâche de faire transmettre et de transmettre à ses disciples qui l'écoutent. Les disciples, justement, qu'est-ce qu'il nous a dit d'eux ? Il nous a dit qu'ils allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et si on prend un tout petit peu avant, toujours dans l'évangile de Matthieu, au verset 10, on voit qu'il nous a dit « Alors Jésus leur dit, puis il leur dit ça aux femmes, qui sont les premières témoins de la résurrection, « N'ayez pas peur, mais allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Donc dans un premier temps, et ce verset 16 nous l'indique dans cette introduction à ce passage, dans un premier temps, les disciples obéissent encore et toujours à la parole de Jésus et à la parole des femmes. Vous rigolez, mais c'était pas si évident que ça, parce qu'effectivement, si on replonge un tout petit peu en arrière, puis heureusement que ça a un peu évolué, la parole des femmes, elle était généralement pas prise au sérieux. Donc là, il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ils obéissent non seulement à la parole du maître, mais à la parole qui est colportée par les femmes. Et ils y vont. Mais je ne sais pas si vous voyez une petite différence, mais c'est une petite différence qui est significative, entre le premier ordre qui est donné au verset 10, « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et puis le verset 16, il ajoute qu'ils se retrouvent sur la montagne. Et puis la montagne, dans l'évangile de Matthieu, ça signifie énormément de choses. Donc pour eux, le fait de se retrouver à ces endroits-là, on aime bien certains endroits où il y a des choses spéciales qui se passent, mais pour les disciples, c'était cette montagne. C'était là qu'ils pouvaient se souvenir de différentes choses, notamment la tentation de leur maître, qui s'est passée sur une montagne, tout le sermon sur la montagne, c'est-à-dire l'ensemble de l'enseignement de Jésus de manière concentrée sur cet enseignement sur la montagne. La montagne, c'est aussi le lieu de cette expérience unique de transfiguration, où ils ont vu Jésus sous un jour complètement nouveau, où ils ont commencé peut-être à percevoir qu'il était le Fils de Dieu. Ce lieu de rencontre spéciale et décisive, en fait, il récapitule l'ensemble de l'Évangile. Dans ces quelques versets, et puis c'est ce genre de petits indices dans le texte qui nous le disent, ce genre de petits indices nous disent que tout l'entier de l'Évangile est récapitulé dans ces petits versets, dans ces 40 mots. Et ça, c'est peut-être pour ça que ces versets ont une telle force. Parce que si vous les lisez, vous pouvez vraiment tout relire l'Évangile à la lumière de cet ordre missionnaire. L'entier de ce qui nous est annoncé dans l'Évangile de Matthieu, vous pouvez le relire avec les lunettes de cet ordre missionnaire que nous allons méditer. Les disciples toujours, ils voient Jésus et là, deux réactions. Ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et là, de nouveau, ça renvoie à un autre épisode de l'Évangile de Matthieu, l'épisode de la mer de la tempête et de la tempête apaisée et de Pierre qui marche sur les eaux. Puis qu'est-ce qu'il lui dit là Jésus dans cet épisode ? Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Les disciples, encore et toujours, comme Pierre, lors de cet épisode marquant de sa vie, sont tiraillés entre ces deux attitudes, se prosterner et des moments de doute. On peut les comprendre, hein? La dernière image qu'ils ont de Jésus, c'est cette image de leur héros qui est maltraité, qui est mis à mort, qui finalement achève son parcours sur terre de manière radicale. C'est la dernière image qu'ils ont. Et là, tout à coup, ils le revoient. Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que c'est une apparition ? Est-ce que je suis en train de me faire un film ? D'autres, au contraire, dans un élan unique, se prosternent devant lui. Il y a vraiment toujours les deux réalités, d'après moi, dans nos vies de disciples. Soit on est attiré, on se prosterne, soit on peut avoir des doutes, puis peut-être des fois qu'on a les deux en même temps. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait légitime. Les disciples eux-mêmes, en voyant pour la première fois le Christ ressuscité, ont eu ces deux types de sentiments. Et on voit, il n'y a pas de condamnation de la part de Jésus. Simplement, il leur adresse la parole. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ce Jésus ressuscité, la première chose qu'il leur dit, c'est que toute autorité lui a été donnée. Il commence par prendre la parole, il tient sa parole, il la prend aussi, et il annonce le règne de Dieu, comme dans la prière, hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis là, ça rejoint, dans ce « toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre », ça rejoint quelque chose que l'on a déjà souvent évoqué, c'est cette réalité que la mission de Dieu excède largement la mission de l'Église. La mission de Dieu est nettement plus importante, plus vaste, plus grande que la mission de l'Église. Ça va au-delà même, je pense, de la chrétienté. La mission de Dieu, elle est là parce que toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans le ciel. Mais, et c'est ce qui est frappant, c'est que cette autorité, il décide de la transmettre à ses disciples. Ce n'est pas une autorité qu'il garde pour lui, mais c'est une autorité qu'il transmet à ses disciples. Alors même si effectivement la mission de Dieu, elle excède, elle va largement au-delà des frontières de l'Église, des frontières de la chrétienté, cette autorité, il ne la garde pas pour lui, il la transmet à ses disciples. Cette mission de Dieu devient aussi la mission des hommes. C'est tout ce qu'on appelle avec ce grand terme de l'incarnation. Cette incarnation, ça veut dire que simplement la parole de Dieu, elle reste plus seulement en Dieu, mais elle est aussi transmise et les hommes peuvent se l'approprier. Ce n'est pas une chose que Dieu garde pour lui. Et c'est pour ça qu'il peut dire ensuite à ses disciples, « Allez !» Et faites des gens de toutes les nations des disciples. C'est grâce à cette autorité qui a été donnée sur la terre et dans le ciel que Jésus permet de leur dire « Allez avec ce bagage-là ». Sans ce bagage-là, on serait cuit. Mais avec ce bagage-là, on peut y aller. C'est la condition même pour qu'on y aille. Et qu'est-ce que l'on est appelé à faire, nous les disciples qui sommes ici à Nyon ce matin ? Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et... parce qu'il y a un « et », enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. On commence cet ordre missionnaire par un envoi, ce fameux « aller ». On le voit, la vie chrétienne, la vie avec Jésus, ce n'était pas une vie de tourpeau. Il suffit de relire les évangiles pour voir à quel point les disciples sont challengés au quotidien, jour après jour, à être en mouvement, à aller de l'avant. Il continue, même s'il n'est plus là, il leur dit « continuez ». Ce que je vous ai appris durant ces 3 ans, continuez à le faire. Et allez-y avec tout ce que je vous ai donné. Et puis finalement, la mission, on se rend compte qu'elle est relativement simple dans son contenu. Qu'est-ce qui nous est demandé, ou qu'est-ce qui est demandé aux disciples de pratiquer ? C'est le baptême, et c'est d'enseigner à garder les commandements. Des fois, on se creuse la tête pour savoir quel est le contenu qu'on peut donner. Alors après, c'est vaste, hein, ce qu'on peut mettre derrière. Mais au niveau simplement de retenir quel est le contenu de la mission que Dieu nous demande, c'est le baptême et ensuite d'enseigner pour garder les commandements que Dieu nous a donnés. Le baptême, et il y a plusieurs personnes parmi notre communauté qui se préparent à entrer dans cette réalité-là. On est en train de vivre des temps vraiment fructueux et féconds de préparation au baptême. C'est en même temps un point d'aboutissement, mais c'est aussi un point de départ. Et c'est surtout ce que j'essaie de leur transmettre, c'est dire mais il y a un départ nouveau lorsque l'on se fait baptiser. On entre dans cette communauté des disciples qui veut véritablement se mettre à la suite du Christ et participer à cette mission. C'est tout un processus. Il y a des histoires très très diverses. Puis le groupe qui est là prouve encore une fois que les histoires sont très diverses pour arriver à cette décision-là. Mais à un moment donné, on se réunit, on forme communauté et on va de l'avant à la suite du Christ. C'est afficher publiquement cette entrée dans la communauté de Dieu. Et ce sera un très beau moment auquel vous êtes évidemment tous conviés le 25 juin prochain. Et dans un deuxième temps, puis c'est peut-être un volet qu'on a plus de peine à aborder, je trouve, concrètement puis clairement, il y a cette deuxième ordre de garder, d'enseigner à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. Le baptême, ça nous offre effectivement un espace de liberté incroyable, mais juste après, Jésus parle de commandements. Alors comment essayer de vivre au mieux ces deux relations, ces deux éléments entre cette liberté qui nous est offerte, cette nouveauté de vie qui est là, et le fait que Jésus, malgré tout, donne des commandements à ses disciples. Je dirais que la première chose, c'est d'essayer de ne pas évacuer directement la question. Effectivement, oui, Jésus donne des commandements et nous encourage à les enseigner et à les garder. C'est la première chose. Dans un deuxième temps, ces commandements, ils sont quand même liés directement à la crédibilité de la vie chrétienne sur terre. On n'est pas encore au ciel, on n'est pas encore dans la liberté royale, mais on est là pour être témoin, et une manière d'être témoin que Jésus souligne, c'est le fait de garder les commandements qu'il nous a donnés. Et puis là, on retrouve ces échos à la montagne. C'est là que ces éléments se mettent petit à petit en place, parce que ces commandements, si on veut essayer d'interpréter qu'est-ce que ça peut être, le fait qu'ils les transmettent de nouveau sur la montagne, automatiquement dans l'esprit des lecteurs et dans notre esprit, ça fait écho aux enseignements que Jésus a donnés, notamment dans le sermon sur la montagne. Ces enseignements qu'on connaît bien, ces commandements nouveaux qui sont là, et notamment, si je devais les résumer en un mot ou deux mots, ce serait cet amour radical, cet amour qui va jusqu'à aimer son ennemi. C'est ça. On peut aussi penser au pardon qui est exigé au sein de la communauté, puis au sein de la communauté humaine. Le pardon, la réconciliation, c'est des éléments extrêmement forts de l'enseignement de Jésus qui nous sont donnés pour vivre pleinement notre vie de baptisé. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces commandements-là dans nos vies? C'est un processus toujours à renouveler, mais c'est vraiment ce à quoi Jésus fait allusion lorsqu'il dit « Enseignez-leur à garder ces commandements ». Il y a le baptême, c'est une chose, mais ensuite ce témoignage de vie est une deuxième chose. Puis j'aime bien leur dire à ceux qui se préparent au baptême, parce qu'ils se demandent toujours pourquoi on se prépare au baptême, et puis c'est assez intéressant de se rendre compte que dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, les chrétiens faisaient envie aux autres personnes, parce que c'était une toute petite minorité de personnes, hein, les chrétiens, ça représentait trois fois rien, ils faisaient envie à ceux de l'extérieur, précisément par leur manière de vivre, par leur style de vie qui était radicalement différent, notamment au niveau de l'amour qu'ils avaient pour ceux qui les détestaient, notamment ceux qui les persécutaient. Et le deuxième point, c'était un des points qui ressort, il y en a aussi beaucoup d'autres, mais le deuxième point, c'était la réalité de la réconciliation et du pardon au sein de leur communauté. C'était des éléments qui intriguaient ce qui est à l'extérieur et qui leur permettaient d'avoir une vie communautaire et de disciples effective et active. Tout ça pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. Cette entrée dans la vie nouvelle ne va pas sans le fait de vivre en nouveauté de vie. Et puis, ce n'est pas pour se mettre... Parce que la critique principale qu'on a, c'est qu'on se mettrait facilement sous un joug nouveau de légalisme, puis qu'on aurait de nouveau un code de loi. Je ne crois pas que c'est ça. Mais à force de dire que ce n'est pas ça, peut-être qu'on a oublié qu'il y avait quand même des commandements. Et puis, on ne sait plus exactement comment faire. Mais si on se rend compte vraiment que ces commandements sont résumés dans l'amour radical, de cet amour des ennemis, peut-être qu'il y a une solution pour dire que ce n'est pas un nouveau code de loi, on n'est pas en train de refaire 15 ou 20 chapitres de loi comme dans l'Exode ou le Lévitique, mais on est en train d'essayer de plus profondément de vivre cette nouveauté de vie. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel à la mission. On peut faire toutes les techniques qu'on veut, ça commence par nous et cette capacité à garder les commandements. Et pour ce faire, le texte termine sur cette magnifique promesse. Oh, j'ai un peu zappé tous ces trucs. Cette magnifique promesse de la fin du texte qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis ça fait écho de manière de nouveau magnifique au tout début de l'évangile de Matthieu. Lorsque la première information qu'on apprend de Jésus, outre sa généalogie, c'est son nom. Et son nom, qu'est-ce qu'il signifie ? Emmanuel, Dieu avec nous. Pour moi, je trouve que c'est assez impressionnant et émouvant de se dire la première chose que l'on apprend de Jésus, c'est qu'il est avec nous. La dernière chose qu'il laisse à ses disciples avant de partir, c'est qu'il leur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est tout à fait conscient que la mission qu'il exige d'eux, ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas une mission comme ça qu'on peut faire en claquant des doigts, on va s'éclater. C'est pour ça qu'on a besoin de ces deux promesses, de savoir que toute autorité lui a été donnée sur la terre et sur le ciel, et de le savoir tous les jours, auprès de nous, pour vivre cette mission. Sans ces deux piliers sur lesquels on peut et on doit s'appuyer en tant que chrétien du XXIe siècle, impossible d'envisager une quelconque mission auprès comme au loin. Mais avec ces deux piliers, de le savoir que lui a toute autorité dans ses mains, sur la terre et au ciel, et que ce même Jésus qui a autorité sur la terre et au ciel nous donne et nous offre sa présence au quotidien. Nous ne sommes pas seuls, mais bien accompagnés. Amen.